Le livre de l'Apocalypse. Voilà le livre qui est sur mon cœur pour un certain temps, parce qu'il y a énormément de choses à voir, des choses très importantes. Il ne faut pas se tromper de priorité dans le livre de l'Apocalypse. Et puis, il y a aussi des pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber quand nous abordons l'Apocalypse. On ouvre ensemble le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît, au chapitre 1er et au verset 1er. Ce ne sera pas difficile à trouver pour vous, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Vous êtes avec moi, vous avez trouvé? Attention, voilà ce qu'on va lire. Très important. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Et là, vous vous dites, ah ben, à ce rythme-là, on n'est pas au bout. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est simplement un message d'introduction que je veux vous apporter, quelques réflexions générales, quelques réflexions d'introduction, d'approche. L'Apocalypse, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, vous le savez certainement, ne signifie pas fin du monde. L'Apocalypse, apocalypsis, signifie révélation. Et bien qu'il parle évidemment, ce livre, de choses sérieuses qui arriveront dans les temps de la fin, il nous parle aussi de la fin, oui, mais avant toute chose, il signifie révélation. De quelle révélation parlons-nous? Oui, il y a des révélations au sujet de certaines choses qui doivent arriver avant la manifestation totale et définitive du royaume de Dieu, des événements qui doivent arriver sur cette terre. C'est vrai que ce livre contient de nombreuses révélations. Et d'ailleurs, au sujet de ces révélations, frères et sœurs, je vais peut-être vous décevoir, ne vous attendez pas à ce que je vous donne toutes les réponses à toutes les questions et que je vous dise ce qu'il faut penser et comment il faut le penser. Il y a malheureusement eu beaucoup de spécialistes du livre de l'Apocalypse, je n'en suis pas un. Mais il y a des choses essentielles à considérer. Concernant ces révélations, les révélations des choses qui doivent arriver dans les temps, dans la suite, il faut admettre qu'il n'est pas toujours évident de sonder ou de percer toutes les images, toutes les métaphores, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de langage métaphorique. Il n'est pas non plus toujours évident, il faut l'aborder avec beaucoup de prudence et beaucoup d'humilité, comme pour toute la parole, mais devant l'Apocalypse, nous sommes très petits, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup aussi d'objectivité. Si vous voulez comprendre l'Apocalypse, commencez par enlever les lunettes que vous avez sur le nez. Parce que les spécialistes vous ont mis soit des lunettes vertes, soit des lunettes bleues. Et vous avez des gens, quand ils lisent l'Apocalypse, ils ont des lunettes vertes. C'est vert, je le savais, c'est évident. Mais oui, c'est vert, je vous l'ai dit que c'est vert. Depuis le temps que je le lis, c'est vert, c'est sûr. Et l'autre vous dit, mais non, c'est bleu, parce que de toute façon, depuis le temps que je lis, en plus, le frère Intel me disait toujours que, non, ça c'est bleu. Il faut enlever les lunettes qu'on a sur le nez, il faut le considérer avec beaucoup de prudence et beaucoup d'humilité. Beaucoup de prudence parce qu'il ne faudra pas aller au-delà de ce que les textes disent. Et quand les textes ne disent rien, je sais que la nature a horreur du vide, mais quand les textes ne disent rien, on ne va pas inférer, on ne va pas inventer ce qui n'existe pas. On va rester prudent. Et puis, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'est pas évident d'établir toujours une chronologie de faits qui soit infaillible, définitive, incontestable, j'ai raison, c'est comme ça. C'est comme ça que certains spécialistes se sont perdus. Alors il y a des révélations, oui on en parlera, mais s'il y a un enjeu, s'il y a une révélation qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est ça le plus important, la révélation de Jésus-Christ. Jean a eu cette révélation, il a eu cette vision sur l'île de Patmos. Ce n'est pas une vision que vous aurez au même sens que lui, il a eu, mais pour nous, ça signifie quand même une révélation de cœur. C'est une vision de cœur, c'est que nos cœurs vont voir avec les yeux de la foi, vont voir des choses que, humainement parlant, nos yeux ne peuvent pas voir, nos yeux humains ne peuvent pas voir. Jean a reçu cette révélation et l'enjeu, ce qu'il ne faut jamais rater dans le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Sinon, on va tomber dans un piège dans lequel, bon nombre de spécialistes sont tombés, c'est de chercher sans arrêt, à sonder toujours plus et à percer tous les mystères de ce que ce livre veut révéler, au lieu de chercher une plus grande communion, une plus grande révélation, une plus grande intimité avec le roi des rois, avec le seigneur des seigneurs. Nous sommes humains, et c'est normal, nous sommes tous fascinés par l'avenir. La connaissance de l'avenir, c'est grisant, c'est excitant, ça nous intrigue, ça nous fascine. Moi, ce qui doit me fasciner, c'est pas de percer tous les mystères à venir. Ce qui doit me fasciner, c'est la personne incomparable et glorieuse de Jésus. Ça me fait vibrer. Ça, je veux pas le rater. Parce que, pardonnez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de questions dans les milieux chrétiens et toutes les mêmes questions reviennent. Frère, l'Église, elle est enlevée avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Et chacun va y aller de son couplet. Moi, je vous livrerai des éléments, mais après, vous verrez. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que si l'Église ne reçoit pas la révélation de Jésus-Christ et si elle n'écoute pas les chapitres 2 et 3, où à chaque Église, il est dit « Que chacun écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. Que chacun écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. Que chacun écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. » Si l'Église doit passer par la grande tribulation, vous avez vu, je ne mets que des si, hein, vous n'aurez pas de réponse, hein, cherchez pas. Hein. Si elle doit y passer, elle n'a pas la révélation de Jésus, elle n'a pas écouté ce que l'Esprit dit, elle ne tiendra pas. Même si, supposons, l'Église ne passe pas par la grande tribulation, si elle n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ et si elle n'a pas écouté ce que l'Esprit disait, elle ne tiendra pas. Elle ne sera pas emportée par la grande tribulation, elle sera emportée par l'œcuménisme, elle sera emportée par la grande prostituée, elle sera emportée par la mondanité, l'esprit mondain, par la religiosité, par la tiédeur, etc. etc. Si elle n'a pas la révélation, l'Église de la fin des temps ne tiendra pas, de toute façon. Ce qui va être primordial, c'est la personne incomparable et glorieuse de Jésus. Paul disait « Mon but, c'est de le connaître. » Mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est pas de percer la science de tous les mystères. Mon but, c'est de le connaître. Et si j'ouvre, et je vous invite à ouvrir cette semaine, ouvrez le livre de l'Apocalypse, commencez à vous plonger dedans, commencez évidemment par le chapitre premier, pas parce que c'est le chapitre premier, parce que c'est le commencement dans le livre d'une révélation exceptionnelle de Jésus-Christ qu'on retrouvera dans chaque aspect de chaque révélation aux églises, dans toutes les étapes du livre. On va retrouver des moments glorieux de révélation à chaque étape. Il y a ce message extraordinaire, le Christ vivant, ressuscité, incomparable, règne. Il se révèle, il est le maître de l'histoire avec un H majuscule. Quoi qu'il arrive pas, ce que vous allez voir va vous ébranler. Peu importe ce que vous allez comprendre ou pas comprendre, des 10 cornes de la bête qui monte de la terre ou de la bête qui monte de la mer, etc. Ce que vous comprenez ou comprenez pas, ça changera rien pour vous. Par contre, la révélation de Jésus-Christ, ça va changer non seulement votre communion avec Dieu, mais ça va changer aussi vos prises de position pour les temps à venir que nous allons traverser. Jean a reçu une multitude de révélations, des visions extraordinaires, magnifiques. C'est un peu comme des tableaux qui passent devant lui comme ça. Certaines scènes se déroulent tantôt dans le ciel, tantôt sur la terre. C'est magnifique, c'est beau, c'est extraordinaire. Des révélations prophétiques extraordinaires. Mais la première vision qu'il a reçue, la première révélation qu'il a eue, c'est la révélation de Jésus. Et cette vision, évidemment, Jésus, dans sa gloire, cette vision est omniprésente dans le livre. C'est quoi le but du livre? Le but de l'Apocalypse? Le but de ce livre, c'est d'amener une plus grande révélation de Jésus en tant que Seigneur. C'est une suite logique de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean présente l'agneau de Dieu sacrifié. L'Apocalypse va présenter l'agneau couronné de gloire et d'honneur. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le fidèle, il est le véritable, il est celui qui est au contrôle, celui qui est aux commandes, le souverain absolu, celui que rien ni personne ne peut déstabiliser, personne ne peut l'inquiéter un tant soit peu. Son trône, son règne est éternel, il est inébranlable. Et vu ce que l'Église de la fin des temps va devoir traverser, il faut une révélation particulière, sans ça l'Église ne pourra pas tenir. Il est le maître de l'histoire avec un H majuscule. Et ce livre est rempli de références à la seigneurie de Jésus. Bien sûr, ailleurs aussi dans l'Écriture. Mais, je le dis ainsi, plus les temps que nous allons devoir traverser vont être intenses et difficiles, plus la révélation de Jésus, celle que nous devons chercher, celle que nous devons recevoir, doit être à la hauteur de ce que nous allons traverser. Et la seigneurie de Jésus, elle est partout dans l'Écriture, mais elle est particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, parce que, frères et sœurs, je vous l'ai dit au mois de novembre, quand on a parlé du vent de l'Esprit et des vents contraires, des vents qui nous secouent, je vous le redis, la décennie 2020-2030, je ne suis pas un prophète de malheur, on ne va pas rigoler tous les jours. Et quand je vous ai dit ça il y a 4 mois, j'étais loin de penser qu'on vivrait ça. Et derrière, il y a des choses qui arrivent encore. C'est écrit, c'est normal, des douleurs, des crises de plus en plus intense et de plus en plus rapproché, une crise faisant place à une autre crise et à une autre crise, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et tout est décrit, tout est dépeint, tout est écrit pour notre instruction. Et dans tout cela, pour aider les croyants de la fin des temps à faire face, il y a une révélation extraordinaire de Jésus-Christ. Et vous noterez aussi qu'à chaque église, à chaque étape du livre, mais à chaque église, il y a un aspect particulier de la personne incomparable de Jésus qui est révélée à cette Église pour l'aider à tenir et pour rectifier le cap quand c'est nécessaire. La révélation, cette vision, de quoi parlons-nous évidemment ? La révélation concerne le cœur, elle concerne mon être intérieur. La connaissance théorique, c'est dans ma tête. Mais celle-là, elle ne peut rien faire pour moi. Mais la révélation, c'est une connaissance de cœur. La révélation, je vous l'ai dit, cette vision, c'est de voir avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, ce que nos yeux humains ne peuvent pas voir ici-bas. La révélation, elle est gravée dans mon être intérieur. C'est une puissante conviction que même quand je suis dans le pire, Dieu règne. C'est une puissante conviction intérieure, c'est une réalité intérieure. Cette révélation, elle est tout autant réel, même plus certainement, que ce que mes yeux humains peuvent voir. Cette réalité intérieure, elle va transcender, elle va dépasser les circonstances visibles, elle va dépasser les événements contraires. C'est le but premier du livre de l'Apocalypse, d'amener ce genre de révélation puissante qui va transformer la vision des croyants et leur donner le courage nécessaire de traverser ce qu'il va falloir traverser à la fin. Cette révélation, à quoi elle sert ? 2-3 pensées très simples. Cette révélation doit nous amener à une plus grande adoration. Vous prenez avec moi quand même le verset 17. La semaine prochaine, on va un petit peu plus loin dans cette révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Mais notez quand même avec moi au verset 17. L'apôtre Jean dit bien « Quand je le vis, » il est bien question de Jésus dans le contexte, évidemment. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Merci Seigneur. Je n'ai pas à craindre ce qui va se passer sur cette terre. J'ai à me préparer, mais je n'ai pas à craindre. Je suis le vivant, le premier et le dernier. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jean, devant cette vision glorieuse, il est tombé à ses pieds. Mais dites-moi, Jean, ce n'était pas un petit nouveau. En l'an 95 à peu près, il est âgé. Il est sur l'île de Patmos. Pardonnez-moi, il a bourlingué avec Jésus pendant qu'il était là. Et après, il a fait un bout de chemin. Il a écrit un évangile extraordinaire. Il a écrit 3 épîtres magnifiques. Il a vu des miracles. Il a même des miracles sont passés par ses mains. Jean, c'est pas un petit nouveau. Excusez-moi, il a de la bouteille. Ça fait un moment qu'il en connaît et il en connaît un sacré rayon. Mais quand il a eu cette révélation-là, tout le reste, c'était comme une première fois. Il n'avait jamais vu une telle révélation de Jésus. Et il est tombé à ses pieds comme mort, terrassé. C'est extrêmement important, frères et sœurs, même si nous avons beaucoup vécu avec le Seigneur, d'avoir toujours une révélation sans cesse renouvelée et d'être sans cesse ramené, pardon, projeté à ses pieds, pour ne pas dire terrassé à ses pieds. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un principe biblique. Celui qui fléchit le genou devant le Seigneur, devant le Christ vivant, ne fléchira jamais le genou devant autre chose. Celui qui capitule devant Dieu ne capitulera pas devant autre chose. Ni devant le péché, ni devant la mondanité, ni devant la religiosité, ni devant la grande prostituée dont l'esprit est déjà présent, elle est déjà en train de se mettre en place. Celui qui est vaincu et qui capitule au pied du Seigneur, au pied du roi des rois, ne capitulera jamais, il ne fléchira jamais devant le reste, quoi qu'il arrive. Cette révélation, frères et sœurs, elle est primordiale, elle nous amène à une plus grande adoration. Elle va nous amener aussi à une plus grande assurance, à une plus grande confiance. Là, ce n'est plus des dogmes, ce n'est pas des rituels évangéliques, c'est que je sais en qui j'ai cru. Quand des frères sont persécutés pour leur foi, il n'y a aucun dogme, aucun rituel qui peut vous sauver. Et à ce moment-là, ce qui les sauve, ce n'est pas d'avoir compris ou d'avoir percé certains textes de l'Apocalypse. À ce moment-là, dans leur cœur, il y a une révélation. Ils ont la vision dans leur prison, dans leur souffrance, dans leur martyre. Ils ont la révélation de celui qui est assis sur le trône et qui leur dit, comme à l'église de Smyrne, « Même si tu passes par une tribulation qui te dépasse, je t'aime, je contrôle, je ne suis pas dépassé, je ne suis pas ébranlé, je sais ce que je fais, même dans le pire, je suis Dieu. » Et là, il ne faut pas que ce soit dans ma tête, il faut que ce soit dans mon cœur. Et sérieusement chevillé au corps. Une plus grande confiance. Il est souverain sur tout, sur tous, même sur le pire. Une confiance, je dirais même, une confiance aveugle. Job a dit ça un jour. Même s'il me tuait, je continuerai de croire en lui. Une confiance aveugle, une foi toujours plus solide, plus ferme, plus enracinée, la confiance à la place de la crainte. Jésus lui a dit, verset 17, « Ne crains pas. » Une foi plus solide, plus enracinée, une plus grande dimension de foi, une meilleure assurance. Jésus disait à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses, Jean 14, « Je vous ai dit ces choses. » Avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Une plus grande dimension de foi, une plus grande adoration, une plus grande confiance, une meilleure assurance. Et puis, ça va aussi nous amener, ça c'est pas écrit dans la Bible, c'est un proverbe humain, mais c'est quand même vrai, il paraît qu'un homme averti en vaut deux. Si j'ai vraiment compris, je vais me préparer. Je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais faire du choix dans mes Je vais faire du tri dans mes choix. Je vais faire du tri dans mes priorités. Il y a certains combats dont je vais me passer aisément. Ce livre doit me fortifier dans la foi, me donner du courage, me rassurer, mais il doit amener quelque chose en moi, c'est-à-dire une plus grande dimension d'engagement, un plus grand engagement intérieur, un plus grand investissement personnel, parce que je suis averti. Je le sais. Je sais que ça va arriver. Donc je vais me préparer. C'est mieux de se préparer avant la bataille qu'après. Et même pendant, c'est très très juste, hein, c'est la panique, hein. C'est la déroute. Je me prépare avant. Et la Bible me montre qu'il va y avoir des grandes batailles. La grande bataille, ce n'est pas Armageddon. Hein. La grande bataille, ce n'est pas Gog et Magog. Ça, c'est encore pas arrivé sur la terre, mais c'est comme si c'était fait, c'est réglé. Parce que Dieu dit dans sa parole, Armageddon, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se terminer. Point, chapitre suivant. Gog et Magog, hein, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se terminer. C'est comme si c'était fait. Par contre, au sujet des sept églises, les sept types d'églises de la fin des temps, les sept grandes batailles, elles sont là les vraies batailles, ils sont là les vrais enjeux. Les vraies batailles que l'église de la fin des temps va devoir mener et remporter avec la grâce de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit, là il n'y a rien de sûr. Jésus dit à Éphèse, repens-toi, reprends ton premier amour. Si, là il y a des si, pour Gog et Magog il n'y a pas de si, c'est bouclé, c'est réglé. Par contre, pour les batailles qui concernent notamment la première et quelques autres, pour ne pas abandonner, parce que Éphèse n'a pas perdu, hein, ils ont abandonné le premier amour, c'est pas pareil. Je ferme la parenthèse. Pour ce genre de bataille, il y a des conditions. Tous les croyants ne la remporteront pas. Si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas à ton premier amour, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Il y a des batailles dont l'issue n'est pas encore certaine. L'issue dépend de vous, elle dépend de moi, elle dépend de nous. Il y a des grandes batailles, des grands combats, des grands enjeux. Et il est temps, frères et sœurs, de se préparer. Il y a dans tout le livre de l'Apocalypse, je le ressens ainsi, beaucoup d'appels, des avertissements, des appels, des encouragements, il y a de tout, mais solennels, pressants, important, parfois urgent. Il y a ce genre d'appel solennel. Il y a un Seigneur extrêmement glorieux, beau, magnifique. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Nos mots sont insuffisants. Un Seigneur magnifique, mais qui doit susciter de l'engagement et de la passion. Parce que sinon, la vraie question, le vrai enjeu du livre de l'Apocalypse, c'est de savoir si l'Église de la fin des temps va recevoir la révélation du Seigneur de gloire. Est-ce qu'elle va vivre avec la vision de son Seigneur ou est-ce qu'elle va naviguer à vue en fonction des pressions, des tentations, des épreuves, des persécutions, des relâchements, de la tiédeur, de l'esprit de ce monde? Est-ce qu'on va avoir une vision de Jésus-Christ pour tenir envers et contre tout? Où est-ce qu'on va naviguer à vue? C'est ça l'enjeu. Est-ce que l'Église va recevoir cette révélation? Est-ce qu'elle va seulement s'y intéresser? Est-ce que l'Église va connaître son Seigneur et comment va-t-elle le connaître? À quel degré va-t-elle le connaître? Allons-nous être des chrétiens de tête ou des chrétiens de cœur? Allons-nous être des religieux ou des gens passionnés? Les enjeux, les réponses, les enjeux, les véritables questions sont là. Est-ce que nous allons contempler, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on tiendra, allons-nous contempler le Seigneur dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa beauté, dans sa dignité, dans sa prééminence, dans sa toute suffisance, dans sa toute puissance, dans sa magnificence, son éclat, sa royauté, sa souveraineté? On peut mettre tous les mots qu'on veut, ce ne sera jamais suffisant. Le véritable but, le véritable enjeu du livre de l'Apocalypse, c'est de savoir si l'Église va, un, recevoir la révélation de la personne glorieuse et incomparable de Jésus, deux, est-ce qu'elle ne va pas manquer les chapitres 2 et 3, le message aux sept églises, les messages aux sept églises, dans chaque message. Il est dit, j'aime beaucoup pour cela la traduction français courant, elle est simple, elle est hyper claire, que chacun écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Église, c'est le but, c'est l'enjeu, c'est la vraie question, doit recevoir cette révélation et avoir cette écoute obéissante de la voix de l'Esprit pour la fin des temps. Le but de ce message d'introduction, je termine avec ça, c'est de préparer nos cœurs, c'est de chercher cette révélation, c'est de nous centrer, recentrer, de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans le livre, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ et ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église. C'est comme ça que nous éviterons de nous perdre dans des conjectures stériles. Ne pas manquer, conjectures, ce sont des hypothèses, des conjectures, des hypothèses stériles. Ne pas manquer les trois premiers chapitres et toute la révélation de Jésus-Christ au fil de ce livre. Ce qui est vraiment important et ce sur quoi il va vraiment falloir se recentrer, c'est Jésus et son épouse, c'est-à-dire vous, moi, c'est-à-dire nous. J'en reste là pour aujourd'hui.